7h51, Frédéric Métezeau, votre invité est gynécologue obstétricienne.
Daniel Gaudry, docteur Daniel Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Il y a 50 ans, jour pour jour, la loi Neuwirth était promulguée, elle légalisait la pilule. Pourquoi, d'abord, expliquez-nous, rappelez-nous, pourquoi fallait-il une loi pour autoriser ce contraceptif ?
Avant 1967, la contraception et tout du reste, et l'avortement également, était interdit en France par la loi de 1920. On avait une politique nataliste forte et qui interdisait, contrairement à d'autres pays européens, toute méthode contraceptive, même les méthodes locales. Le préservatif n'était pas considéré comme méthode contraceptive à ce moment-là. Ça restait préserver des infections sexuellement transmissibles. Donc, effectivement, la contraception devait devenir légale.
La pilule, dans les années 70, a connu une sorte d'âge d'or parce qu'au-delà d'un moyen de contraception, c'était aussi un emblème politique, sociétale quasiment pour bon nombre de féministes. Ensuite, son utilisation a diminué en France. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Alors, on a vu plusieurs stades dans la contraception en France, avec des spécificités très françaises qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut constater dans les pays anglo-saxons. Effectivement, passé 1967, les deux principales méthodes étaient la pilule et plus modérément, le dispositif intra-utérin dit stérilet. Et ensuite, nous avons vu à travers l'évolution des normes que la société impose au niveau maternité, contraception, vie sexuelle. On a tous des normes qui nous sont imposées par notre société au niveau culturel en particulier. Eh bien, nous avons vu en 1980, avec l'apparition du sida, une diminution d'un certain nombre de moyens de contraception avec un passage au préservatif qui était la méthode à ce moment-là qui permet de préserver et la transmission de la maladie et de la grossesse. Et ensuite, il y a eu en 2012 ce qu'on a appelé la crise des pilules de troisième et quatrième génération qui a effectivement là fait nettement diminuer l'utilisation de la contraception hormonale.
C'était la crainte d'effets secondaires, de prédisposition au cancer. Vous diriez qu'il y a une sorte de critique entre guillemets écologique de la pilule, un petit peu de la façon où il y a une critique anti-vaccinale ?
Alors, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Oui, c'est les effets secondaires des produits hormonaux, qu'elles soient dans une pilule contraceptive ou dans d'autres produits. Les peurs, on vit dans une société où on a peur de beaucoup de choses. Du point de vue des professionnels, la peur du médico-légal, puisqu'il y a eu des procès contre les pilules qui ont abouti à des classements sans suite. Mais enfin, n'empêche que les procès les plaintes ont été déposées. Il y a effectivement la tendance très écologique d'un retour à la nature. On rappelle toujours que la nature en matière de sexualité, c'est une grossesse tous les 18 mois à peu près, je crois qu'il faut pas l'oublier. Et après, il y a le mirage d'une contraception qui serait parfaite. Ça n'existe pas, aucune méthode contraceptive n'est parfaite, il y a des inconvénients pour chaque, des contraintes pour d'autres, et des avantages bien sûr.
En France, aujourd'hui, à peu près 8 femmes sur 10 utilisent soit la pilule, soit le stérilet. Dans les autres pays, ça peut être très différent. Il y a des véritables spécificités, pays par pays, sur les moyens de contraception.
Oui, tout à fait. On s'aperçoit que, par exemple, la contraception définitive est très, très largement utilisée aux États-Unis, au Canada ou dans les pays anglo-saxons. Les préservatifs sont très, très utilisés, même en Asie. Enfin, je veux dire, au Japon, c'est une méthode largement utilisée. Et donc, certaines spécificités culturelles ou d'habitude de formation des professionnels également font que certaines méthodes seront plus utilisées.
Vous en parliez, la contraception définitive, ça veut dire la stérilisation. C'est par exemple le moyen contraceptif numéro un aux États-Unis. En France, c'est quasiment personne.
C'est la contraception définitive, qu'elle soit féminine ou masculine, est très peu utilisée. Elle n'a été légal en France que depuis 2001. Oui, ça fait 16 ans,
oui.
Hein, donc, c'est.
Et pour quelle raison? C'est culturel? Ça dépend du système de protection sociale? Ça dépend du poids des laboratoires pharmaceutiques? Qu'est-ce qui explique de telles différences dans des pays, on va dire, à peu près équivalents au niveau économique, par exemple? France, États-Unis, Canada?
Alors, je pense que la contraception définitive, pendant fort longtemps, avant 2001, était considérée comme une mutilation. Donc, nous, professionnels, nous ne pouvions la pratiquer que s'il y avait des raisons médicales. Autrement, c'était interdit. Et donc, depuis 2001, nous en parlons de plus en plus, les femmes le demandent. Et elles trouvent peu de praticiens qui la pratiquent. Bon, je rappelle qu'il y a 4 mois de délai de réflexion entre la première demande et l'acte lui-même. Et on s'aperçoit alors que pour les hommes, c'est encore plus difficile.
Ça, c'est le tabou ultime, la contraception masculine, que ce soit par stérilisation ou tout autre dispositif qu'on pourrait développer.
Oui, c'est
vraiment culturel, là aussi.
Un tabou. Alors, l'argument de dire, ce sont les femmes qui sont enceintes. Donc les hommes sont moins concernés. Enfin, ils le sont quand même, parce que après ils se plaignent qu'on leur fasse des enfants dans le dos, quand même. C'est une expression, hein. Donc effectivement, c'est compliqué, mais c'est effectivement très culturel.
Pourquoi ?
Et également, je dirais que les laboratoires sont peu intéressés.
Mais c'est quoi ? C'est les hommes pensent qu'ils vont perdre leur virilité ?
Tout à fait. Oui, il y a une peur absolument de que le masculin disparaisse.
C'est soit
une peur quand même, ouais. J'allais dire, qui est prégnante dans notre société actuellement.
Daniel Gaudry, vous êtes gynécologue. Il y a de moins en moins de gynéco en France. Il y avait un très long article mis en ligne par Le Monde. Pénurie de gynécologues dans certains quartiers populaires, dans certains départements ruraux. Et parallèlement, dépassement d'honoraires quasi systématiques dans ce secteur. Il y a désormais une prise en charge à deux vitesses en France pour les questions gynécologiques.
Alors, pas que pour les questions gynécologiques. Je crois que là, je n'aurai pas le temps de développer, hein. Le fait du développement des déserts médicaux, que ce soit pour les médecins généralistes ou pour les médecins spécialistes. Les gynécologues dits médicaux sont très peu formés en France actuellement, puisque l'équivalence de diplôme au niveau européen n'existait pas pour les gynécologues médicaux. Il y en a quelques-uns de formés. Également, les gynécologues obstétriciens sont peu nombreux et s'orientent pas forcément vers un exercice libéral. Ils restent plus au niveau hospitalier avec des hyper spécialisations en cancérologie, en stérilité, etc. Et donc finalement, peu de médecins spécialistes se retrouvent à pouvoir suivre les femmes. Mais je rappelle que la contraception peut être prescrite également par les sages-femmes, et un certain nombre, pas toutes, font cette démarche, et les médecins généralistes. Et il y a quand même encore des médecins généralistes. Le problème de leur formation est complètement posé, mais c'est une piste que les femmes ne doivent pas oublier. Et je rappellerai qu'il y a un numéro de téléphone vert qui peut tout à fait être appelé pour avoir des renseignements aussi bien sur la contraception que l'avortement, que la sexualité. C'est le 0800 08 11 11.
Merci beaucoup, Daniel Gaudry. Tout cela sera mis en ligne sur franceinter.fr. Bonne journée.
Merci à Frédéric Mettezeau.